Histoire.
Culture.
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 Histoire. Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission Fréquence Banane à Histoire et Cité, édition 2023. Nous sommes aujourd'hui en live depuis le studio de Fréquence Banane, Lausanne, car oui, tout comme le festival Histoire et Cité, nous pratiquons l'intercontinentalité. Je m'appelle Stanislav Pavlovski et je vais animer cette émission ce soir. Notre invité est Étienne Führer, doctorant en sociologie à l'Université de Paris, Cité, et nous avons aussi autour de la table Pierre Guanzini, master d'histoire générale à l'UNIGE, et notre cher technicien Jacopo, que nous remercions pour sa disponibilité et son aide précieuse. Je souhaite débuter aujourd'hui là où mes recherches pour cette émission ont débuté, sur Gallica. Voici la préface du dictionnaire de sciences politiques de 1860, 6e édition. Les sciences exactes, les sciences physiques, les sciences astronomiques ont leur langue formée, convenue, définie. La science politique n'a pas encore la sienne, c'est-à-dire que les mots dont l'usage est le plus fréquent dans les discussions parlementaires, dans les débats de la presse et dans les conversations privées qui ont rapport à la politique n'emportent pas une signification précise, un sens positif et universellement accepté. Il y a là un grave danger. En politique, ainsi qu'en morale, la moindre incertitude sur la valeur des mots peut entraîner la plus fâcheuse des conséquences. De la confusion du langage naît la confusion des idées. L'esprit s'égare au milieu des interprétations diverses. Dépourvue d'unité, la langue, journellement faussée par l'ignorance, habilement exploitée par l'intrigue, est la source d'une foule de préjugés, d'erreurs, de sophismes et d'équivoques. Puis, les mauvaises passions s'en emparent. Elle s'applique à augmenter le chaos, et bientôt, la parole écrite ou parlée, loin d'être un moyen de civilisation et de progrès, devient un instrument de désorganisation et de mensonge. Combien de dissensions intestines, de guerres civiles, de guerres de religion n'ont pas eu d'autre cause que des mots mal compris? Et peut-on pas dire que l'ambiguïté des termes a, bien plus que l'antagonisme des idées, fait couler le sang humain? Cette sorte d'anarchie est plus redoutable aujourd'hui que jamais. La politique est l'âme du monde moderne, elle est cette puissante circulation qui meut tout. Fait tout penser, tout agir. C'est dans la politique que tourne aujourd'hui toute idée, quelle que soit d'ailleurs son action et son but. C'est de la politique que, de près ou de loin, découlent ces flots de théories, de projets, de systèmes qui viennent battre incessamment l'opinion publique et pousser l'activité de la foule dans des voies nouvelles. Alors, dis-moi Étienne, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce dictionnaire ?
Non, je crois pas, mais c'est très très intéressant ce qu'il raconte là, où t'as trouvé un bon passage. Parce que c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui en sciences politiques. Hein, donc les débats un peu incessants sur quel est le sens des mots, quel est le sens de se battre autant pour le sens des mots, parce qu'on a souvent ce reproche hein, quand on est dans le monde académique. En fait, vous êtes que dans le ciel des idées, vous parlez de langage, de concepts, mais nous, on est dans la réalité à côté. Et donc, ça peut paraître un peu abstrait. Mais comme on verra, j'essaierai de défendre mon bout de gras en disant pourquoi ça me semble important. Je pense que tu auras la question sur quel est le mot, moi, qui m'intéresse.
Alors, en effet, dans cette émission, on va parler principalement de populisme. Mais c'est intéressant de se dire quand même que donc, la préface dont je vous parle n'est pas la préface de la 6e édition, mais la préface écrite par Pagnère, qui a écrit le premier de ses encyclopédies, je crois, dans les années 50 ou 40 du 19e siècle. Donc, elle avait déjà 20 ans lorsqu'elle a été imprimée. Et c'est marrant de se dire que 150 ans plus tard, on n'a toujours pas trouvé la solution. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement de populisme. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du populisme ? Une définition, évidemment, qui est universelle, que tout le monde accepte, que personne ne va débattre.
Je peux vous en donner plusieurs. Comme ça, ça va vous donner un peu la teneur des débats contemporains sur le populisme. D'abord, il y a toute une série de personnes qui abordent le populisme comme un style discursif, une idéologie faible ou fine, ça dépend un peu des termes. Et donc ça a un peu fait école, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez chaque année plus de dizaines de milliers d'articles écrits dans le monde sur le populisme, d'articles scientifiques. Quand vous travaillez là-dessus, vous n'avez pas le temps d'en faire le tour, mais la plupart sont dans la même approche, dans la même lecture en fait, du phénomène populiste, qui est en gros des individus politiques, politiciens, qui mobilisent un signifiant vide, le mot peuple, qui l'investissent de l'idée que c'est la source du bien, hein, le peuple est la source du bien, contre des élites corrompues. Et donc, cette personne-là, ce leader charismatique-là, serait en fait le seul représentant à même d'apporter cette voix du peuple et de balancer la table politique et de balancer les élites par-dessus bord et de renverser la politique as usual, quoi. Enfin, un peu ce genre d'idée. Ça, le problème, c'est que si on regarde bien, c'est quelque chose qui s'applique à peu près n'importe qui, cette définition du populisme. On peut vraiment l'utiliser aujourd'hui dans la littérature. On peut parler de Jean-Luc Mélenchon, de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, de Marie-Maréchal Le Pen, de Trump, de Bolsonaro, des Gilets jaunes, enfin des mouvements ou des partis ou des individus très très différents. Bien sûr, on parle de l'UDC en Suisse en parlant de populisme. Donc ça pose vraiment des questions de est-ce que ce terme ajoute quelque chose à la compréhension de certains phénomènes? Est-ce qu'il ne vise pas trop large? Comprendre. Enfin, ce que disait un auteur qui travaille là-dessus à Lausanne, donc Antoine Chollet, c'est qu'il faut s'intéresser aussi, avant de s'intéresser au phénomène populiste, il faut s'intéresser au discours sur le populisme pour aussi comprendre ce qui se passe et voir que le phénomène aujourd'hui est moins une montée du populisme qu'une montée du discours sur le populisme. Et pour, par exemple, Chollet, donc là, je dois cette thèse, c'est que d'après lui, c'est un symptôme d'une nouvelle haine pour la démocratie. C'est-à-dire que qu'on amalgame en fait des partis d'extrême droite ou des mouvements d'extrême droite qui effectivement cherchent une verticalisation, cherchent une forme de binarisation de l'espace public, avec des partis ou des mouvements d'extrême gauche ou des mouvements très déstructurés comme les Gilets jaunes, où d'ailleurs on n'a pas de leader charismatique, et n'importe quel leader charismatique qui a essayé de se mettre en avant pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça fait mettre dehors, quoi. Donc on est vraiment sur un mouvement qui ne peut pas être qualifié de populisme, selon la définition canonique qu'en ont les politistes aujourd'hui. Voilà. Donc il y a cette définition-là qui fait problème, qui pose problème, et donc après il y a la question de quand on se dit qu'elle fait problème, qu'est-ce qu'on fait? Certains l'utilisent, des fois à juste titre, parce que ça fait des grands groupes de personnes qui travaillent sur l'extrême droite, aussi l'extrême gauche. Pourquoi pas? Ça fait une littérature abondante. Bon, on se dit qu'il peut y avoir des intérêts d'un point de vue démocratique, avoir autant de monde qui ont trouvé une bannière sous laquelle se discuter et se retrouver. En même temps, ça invisibilise toute l'histoire du populisme et de l'apparition, disons, du mot pour parler de phénomène. Et là, je pense qu'on va commencer à développer là-dessus, mais il y a différents exemples, différents moments politiques qu'on a pu qualifier de populisme avant qu'on ait cette définition hyper élargie qui est apparue en fait surtout dans le discours savant. Ça vient surtout, alors c'est encore un bouquin d'Antoine Chollet qui travaille là-dessus, hein, qui raconte un peu l'origine de cette utilisation exponentielle du populisme aux années 50 aux États-Unis par des sociologues, historiens et politistes américains qui en gros se sentaient mis en danger par le macartisme. Et c'était leur réponse au macartisme, hein. C'était d'associer des mouvements historiques qui ont pu s'appeler populisme, comme ce qu'on appelle le People's Party américain au 19e siècle. Donc associer le People's Party américain, fin du 19e siècle, qui est pourtant un mouvement de gauche, agraire, réformiste, au macartisme. Et en faisant cette association-là, en fait, on peut parler de populisme, on peut parler de macartisme, parce qu'on ne veut pas parler de fascisme. On pourrait presque parler de fascisme pour le macartisme. On est dans quelque chose d'antisémite, d'anticommuniste forcené. Voilà, il y a toute une série de choses dans le macartisme qui sont... On pourrait trouver d'autres termes. On peut d'ailleurs juste parler de macartisme. Hein. Ça peut des fois suffire à soi-même. Pas obligé d'avoir toujours des concepts, généralistes. Et donc, c'est un peu là qu'il y a eu un premier shift qui s'est développé, qui s'est aussi reproduit. Ça, c'est un shift en langue anglaise, en fait. Mais ce shift s'est reproduit en langue française, plutôt dans les années 70-80. Et là, son nom m'échappe maintenant, mais c'est une politiste française qui a travaillé là-dessus. Annie Colovald, voilà. Sur l'utilisation du populisme là pour qualifier le FN. On a eu un gros problème pendant quelques années en sciences politiques, c'était justement certaines personnes ne voulaient pas qualifier le FN de fasciste parce qu'ils considéraient que la France était allergique au fascisme. La France avait résisté au fascisme, n'était pas tombée dans les travers du fascisme. Donc même le plus droitard en fait des politiques français ne pouvait pas être fasciste. Alors ils ont d'abord, c'est Pierre-André Taguieff qui a parlé de national-populisme, en mettant un tiret, comme national-socialisme. Bon, il n'était pas non plus loin de ce genre de réflexion. Est-ce qu'on peut coller des termes ensemble? Enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que le préfixe national a sauté assez vite et on a juste parlé de populisme. Et donc, le problème qui s'était posé aux États-Unis dans les années 50 sur ce terme s'est posé ensuite en France dans les années 70-80. Et Taguieff, d'ailleurs, est très au fait de la littérature américaine. Donc, il y avait sûrement aussi... J'ai pas toute l'histoire de la circulation de cette utilisation conceptuelle, on va l'appeler extensive. Mais disons, il y a une temporalité qui varie en fonction des pays.
Alors en effet, c'est très intéressant. Bah, la raison pour laquelle je suis allé sur Gallica, au tout début, c'était parce que je me suis dit, un peu naïf comme je suis, alors on va parler un peu du populisme au 19e siècle. Je vais dans un dictionnaire de sciences politiques du 19e siècle et je vais trouver la définition du populisme au 19e siècle. Comme ça, on pourra faire un truc sympa, comparer le populisme au 19e, les définitions avec la définition que je trouverais au 20e. Là, j'ai été un peu étonné quand j'ai cherché à travers le dictionnaire et je suis passé de population à Portugal. Je me suis dit, mais attendez, il manque populisme. Et je me suis dit, bon, temps de s'y mettre et de faire un peu plus de recherche. En effet, le terme populisme a été introduit en français pour la première fois en 1912 dans un livre dont l'auteur m'échappe, sur la Russie moderne. Donc un livre d'histoire, j'imagine, un livre qui parle de la Russie. Et en effet, c'est la première fois qu'on a utilisé ce terme populisme en français. Est-ce que, donc toi qui es spécialiste sur la Russie, donc le populisme en Russie, au 19e siècle, dans le dernier tiers du 19e siècle, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement pourquoi il a utilisé ce terme populisme et pourquoi il est à ce point-là lié à l'histoire politique russe?
Alors, je reviens sur un truc précis, c'est en fait on trouve des occurrences de populisme antérieures à cette utilisation pour parler du russe à la fin des années 90 dans les journaux qui parlent de la politique américaine, en gros. Parce que c'est le terme populiste, littéralement, est inventé. Enfin, vraiment, le mot est inventé. Alors, il y a différentes histoires, mais selon une des histoires, il est inventé aux États-Unis en 1891 ou 92. Il suit.
Alors, en effet, je me corrige, c'est en français.
Ça marche. Tu verras pourquoi je dis ça. Parce que, du coup, donc c'était, je crois, un journaliste qui dit, parce qu'il y avait un mouvement social assez important, un parti politique qui se forme, le People's Party. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... il faut qu'on ait une étiquette. Le Parti démocrate, les gens sont les démocrates. Et le Parti républicain, on se dit républicain. Si on invente le People's Party, on va se dire quoi? On ne va pas se dire le peuple. Il faut qu'on trouve une alternative. Alors, ils sont appelés populistes. Et là, tu trouves les premières occurrences dans des journaux français, francophones, du populisme. Mais chaque fois, c'est en gros un mot américain, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il n'entre pas vraiment dans un sens dans la langue française à ce moment-là. C'est plus une étiquette étrangère, un anglicisme qu'on ne fait pas entrer dans la langue française. Là, il rentre en 1912 effectivement pour parler du populisme russe, qui pourtant existe. Il y a une tradition qui se poursuit jusqu'au XXe siècle du populisme russe, le Parti socialiste révolutionnaire en Russie, qui était très important même dans la Révolution russe, qui a été très oublié par l'historiographie à la fois léniniste et l'historiographie anarchiste. Enfin, les anarchistes étaient pas...
oubliés ou plutôt
cachés
sous le tapis, on dira, vu ce qu'ils leur ont fait aux socialistes révolutionnaires.
Effectivement.
Je pense qu'ils voulaient pas trop qu'on en parle, les léninistes.
Ouais. Et avec cette histoire qu'une socialiste révolutionnaire a failli quand même assassiner Lénine, donc c'est des choses qui font que, Fanny Kaplan, qui font qu'effectivement il y a des rancœurs. mais la tradition populiste russe, les socialistes révolutionnaires sont partie des héritiers de la tradition populiste russe. Alors après, le populisme russe, en fait, Le terme en russe, c'est Narodny Chezva, donc c'est Narod, le peuple, Chezva, en gros, l'idéologie ou les ismes en français. Et là, on est donc sur un problème de traduction. Est-ce qu'on aurait pu le traduire différemment? Est-ce qu'il fallait le traduire par populisme? Ce qui est intéressant, c'est que dans toute la littérature sur laquelle je travaille, moi, au 19e siècle, le terme populisme n'apparaît pas pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les populistes russes. Donc ça pose un problème de rapport entre le phénomène et le concept, si on veut. Par contre, le terme narodniki, donc ça c'est les populistes, et narodichazvo, le populisme, apparaît partout en russe. Et souvent, les Européens, les internationalistes, les militants révolutionnaires, ils vont parler plutôt de socialistes révolutionnaires pour parler des populistes russes. Et donc, alors ce mouvement, si je dois le résumer très rapidement, on va dire des périodes idéologiques tout au long du 19e siècle, mais à un point d'accélération dans les années 60 et 70, 1860-1870, avec une idée qui est, j'y vais à la hache, avec une idée qui est, souvent c'est des gens qui descendent de la noblesse, de l'aristocratie russe, qui se voient fermer certaines portes, parce que ils sont radicaux pendant leurs études, et qui se disent aussi très illégitimes envers leurs privilèges. Et leur idée de base, c'est on va se déclasser volontairement. Donc ça, c'est un topos un peu anarchiste, dans un certain sens. Les anarchistes parlent plutôt de refus de parvenir. Le refus de parvenir, c'est plutôt quand n'importe quelle position dans laquelle on est, on doit refuser d'essayer d'en atteindre une en dessus de nous, parce qu'en en atteignant une position au-dessus de nous, en fait, on reproduit des rapports de force et on les accepte. Et le déclassement volontaire, c'est exactement là. Enfin, c'est un peu le miroir. C'est-à-dire, si on est déjà dans une situation de force, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos biens? Il y a beaucoup de ces socialistes révolutionnaires russes qui étaient très très riches, qui étaient des familles, de grandes familles terriennes. Un exemple parfait de ce mélange entre populisme et anarchisme, c'est Kropotkine, qui a participé au mouvement populiste russe. Qui est, on l'appelle en français, surtout les francophones le connaissent comme un des pères fondateurs de l'anarchisme. Mais Kropotkine est russe, a passé une bonne partie de sa vie en Russie, avant d'être anarchiste, est passé dans le mouvement populiste révolutionnaire russe. Et Kropotkine, c'est un mec qui avait plus de 1000 serfs. Enfin, sa famille avait des esclaves quasiment. Enfin, les serfs ont un statut un peu différent que les esclaves. Mais... Donc c'est quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement riche. Il faut lire ses mémoires, c'est incroyable. Le gars, il passe du tout au tout. Quoi. Il passe d'une situation hyper privilégiée, il brillant, mathématicien, géographe, une formation incroyable. Et tout d'un coup, il se révolte contre le pouvoir tsariste et il finit en prison, en exil. Et il finira sa vie en dehors de Russie parce que... Enfin, non, c'est pas vrai, il finira sa vie en Russie parce qu'il sera réinvité pendant la Révolution russe à revenir en Russie. Ce qui va être un scandale et un crève-cœur pour les anarchistes à cette période-là, effectivement. Mais oui, il reviendra très tard en Russie, disons.
Ben c'est intéressant, coup, justement.
Ouais.
Ah, pardon.
Ouais. Sur le populisme russe, je peux encore un peu développer, si jamais. Hein, mais le passage est encore très, très, très vague. Mais on va dire, il y a des séquences un peu au milieu des années 70 où, en bonne partie, c'est des étudiants qui, des fois, se font virer de leur université... qui se demandent comment ils peuvent agir pour faire que la population se mobilise, que le peuple se mobilise. C'est pour ça qu'on dit « narodichezva ». Et ils se rendent compte assez vite que dans un système comme le système tsariste au XIXe siècle, où il n'y a aucun espace démocratique, on n'est pas du tout dans quelque chose où tu as une liberté de la presse, où tu as des droits de réunion ou droits d'association. On est vraiment dans la nullité absolue. Et donc ces gens-là lisent beaucoup les socialistes européens, voient les progrès de la démocratie en France ou dans d'autres États européens et se disent qu'ils veulent atteindre ces buts-là, mais pour le faire, il faut passer par toute une série de mobilisations populaires et par une conscientisation populaire. Alors, il y a toute une partie où ils se disent, est-ce qu'il faut faire de la propagande par le livre? Alors, ils commencent à essayer d'imprimer des livres à l'extérieur de la Russie. Des fois, en Russie, s'ils arrivent à avoir des imprimeries illégales, et ils les traduisent, ils essaient des fois d'en faire des synthèses. Par exemple, il y aura des premières synthèses du Capital de Marx qui sont écrites en russe dans les années 70. Marx ne comprendra pas pourquoi son livre a autant de succès en Russie et moins d'abord en Europe. Alors, sous version abrégée, on s'entend, parce qu'il fallait aussi adapter un peu le contenu.
Moi, je pense bien que si on arrive avec le Capital au milieu d'un village...
Ouais, ça pose problème.
Notre idéologie, vraiment avoir beaucoup de réussite.
Et puis la Russie, qui est encore un pays à cette époque-là, l'Empire russe, parce qu'on parle aussi de l'Ukraine, de toute série d'autres, ça fait partie intégrante de l'Empire russe. Et c'est un pays encore avec un taux d'analphabétisation énorme. Donc il y a tout un système pensé par les populistes pour passer ces questions d'idéologie de manière populaire. Alors, des chansons, des discours publics dans le bar, mais il y a des histoires hyper drôles de populistes un peu aristos comme ça qui veulent aller prêcher la bonne parole au peuple comme des apôtres, puis qui arrivent dans des villages et tu as ces gens qui sont là, mais c'est qui ce mec qui sort d'où, qui nous dit qu'il faut se révolter contre nos propriétaires, qu'il faut se révolter contre les notables du coin. Viens, on va te faire venir au bar, on va voir si t'es un vrai gars et on va te faire boire et puis on verra si t'arrives à nous dire la même chose dans... Tu vois, il y a des histoires un peu comme ça qui sont... Alors, après, les socialistes ultérieurs et en partie les bolcheviks se sont pas mal moqués de cette période-là tout en reconnaissant la volonté de faire de ces gens-là. Mais ça a aussi fait qu'une partie du mouvement révolutionnaire russe s'est focalisée majoritairement sur les ouvriers des villes, en considérant qu'eux étaient la seule force valable pour une révolution sociale et socialiste. Et c'est ce que ne voulaient pas les socialistes révolutionnaires, le parti socialiste révolutionnaire avant la révolution russe. Et Lénine a adapté son discours pour faire plaisir aux socialistes révolutionnaires et à certains paysans. Mais quand on voit comment ça s'est passé, il n'était pas très tolérant avec la paysannerie. Bref, bon, c'est ça, j'ouvre un gros débat historiographique donc populisme russe, une première partie propagande par le livre, une deuxième propagande par on va sur place, on essaie de s'intégrer aussi dans les communautés. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de femmes populistes russes, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Et elles, souvent, elles viennent avec des compétences, c'est-à-dire que c'est des femmes qui venaient de l'aristocratie, donc elles ont fait des études de médecine par exemple. Alors, elles viennent dans les campagnes et ce qu'elles proposent, c'est donner des médicaments modernes gratuitement à des gens qui ont des maladies graves. Et généralement, c'est des gens qui soignent avec des remèdes traditionnels. Et s'ils veulent avoir des vrais remèdes un peu modernes, ils doivent aller dans des grandes villes, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et généralement, même ce genre de choses-là, qui n'est même pas forcément de la propagande idéologique, mais qui fait goûter, si on veut, aux classes populaires des campagnes ce que peut être le progrès si on le partage, ça perturbe déjà le système social local, si on veut. Donc on a déjà le prêtre du coin, puis le notable local qui voit ça d'un mauvais œil, alors que si on y pense de manière purement voilà, abstraite, quoi, c'est tu aides quelqu'un à vivre, quoi, tu l'aides à guérir d'une maladie. Donc c'est ce genre de choses-là. Beaucoup d'hommes aussi avaient fait des formations de juristes et donc se déclasser en allant faire notaire et essayer de privilégier, je sais pas, un meilleur partage des propriétés ou essayer de défendre des fois des petits paysans contre leurs propriétaires. Donc ça peut être des actes beaucoup moins caricaturales qu'ont pu en dire certaines personnes ensuite, en disant c'était juste des allumés, comme si nous aujourd'hui on allait dans le Gros de Vaud dire aux agriculteurs faisons la révolution et puis ça serait absurde. Mais il faut toujours se mettre avoir un peu d'humilité envers ce qu'on arrive à reconstruire du passé et se dire, ok, est-ce qu'ils étaient vraiment aussi cons alors qu'ils avaient des mêmes formations, voire des formations intellectuelles très poussées. Et quand tu lis Kropotkin, tu comprends qu'ils n'étaient pas aussi naïfs. Ils savaient qu'il y aurait des difficultés et ils ont pensé à des stratégies. Et c'est aussi important on considère que le mouvement populiste est un échec, généralement, historiographiquement. D'un point de vue de sociologue, ce qu'on dit quand il y a ce genre de mouvement, c'est qu'on essaie aussi de comprendre les effets sur le long cours. La plupart des militants qui étaient dans le populisme russe ont continué à militer ensuite. Et les idées du populisme russe ont continué à cheminer ensuite. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas plus un échec que toutes les autres séries de révolutions qui ont aussi échoué, la Commune de Paris, dans ces mêmes eaux. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que le populisme russe est plus ou moins synchronisé avec la Commune de Paris, s'inspire de la Commune de Paris en partie. Donc, il y a des résonances, parce qu'ils lisent les auteurs français, ils ont des dépêches... d'actualité qui viennent de la France et une partie, alors ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le siècle de la proscription du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est le siècle où les gens se retrouvent en exil un peu partout, tous les militants révolutionnaires se retrouvent en exil et il y a des lieux classiques de l'exil et il y en a un particulier qui est la Suisse. Et il y a beaucoup d'exilés en fait, de ces exilés qui se retrouvent au bord du lac Léman, Clarens, Vevey, Montreux, Lausanne, Genève, beaucoup à Genève. Donc c'est aussi pour ça que moi je travaille aussi un peu depuis la Suisse, c'est qu'il y a pas mal de sources, on pourrait parler du Syrah peut-être, je sais pas.
Alors en effet je me demandais, parce qu'on sait qu'au 19e, même au 18e si je m'en souviens bien, il y a toute cette idéalisation du peuple dans les classes, dans l'élite, donc on aura tous ces mouvements artistiques, romantiques qui vont montrer les bergers, donc ce peuple qui représente dans un certain sens directement la nation. Est-ce qu'en fait ça serait une version un peu, je sais pas comment dire, marxiste, une version appliquée de cette idée-là du peuple romantique? Est-ce qu'on pourrait même utiliser le terme de populisme romantique?
Alors, il est utilisé, le terme de populisme romantique, mais souvent pour parler justement d'une sorte d'étape pré-populiste ou pré-populiste dans le sens de ce mouvement russe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les populistes russes, paradoxalement, c'est justement vu qu'ils savent qu'ils doivent aller faire de la propagande et ce genre de choses, ils ont aussi une conscience aiguë du fait que le peuple ne va pas bouger tout seul. Donc en fait, ils l'idéalisent. Il idéalise, mais pas de la même manière que les populistes romantiques qui idéalisent quelque chose d'un peu figé, les bonnes mœurs, les bonnes valeurs du peuple. Là, c'est des gens qui vont plutôt s'imaginer activement faire participer le peuple à sa propre émancipation. Ce qui est un mouvement intellectuel un peu différent. On n'est plus dans le fait de figer, on est dans le fait de mettre en mouvement. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, dans le populisme russe, en tout cas dans le moment d'intensité qui sont ces années 1870. C'est vraiment l'idée de mettre en mouvement.
D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment juste d'aller éduquer le peuple, de conscientiser. Enfin, il y a tout ce concept de conscience de classe, ouais, de conscientiser les gens. Mais est-ce que dans la rhétorique, donc j'imagine que je pense que tu as lu des sources et tout ça, ouais, écrites par donc, des populistes russes, par des socialistes révolutionnaires, est-ce qu'on a cette idée de la supériorité donc, du socialiste révolutionnaire qui vient indiquer au pauvre paysan qui est un peu perdu, un peu le pauvre air qu'il faut mettre dans le droit chemin? Ou est-ce qu'on a quand même plus un côté de, je ne sais pas comment dire... vraiment plus intersectionnel, je sais pas comment dire, mais dans le sens où on accepte qu'il y a plein de niveaux différents et qu'on apporte quelque chose plutôt qu'on enseigne.
C'est l'ambiguïté qui travaille tous les mouvements révolutionnaires. Ce qui est important, c'est quand même essayer de partager, en fait, parce que sinon tu tombes dans un entre-soi un peu triste. Mais là, effectivement, tu trouves, en fait, chez plusieurs populistes. Bon, d'abord, chaque populiste a un parcours différent et ça arrive qu'il change de position. D'abord, il croit que ça va bien marcher, ensuite ça marche moins bien. Des fois, il croit que ça va mal marcher. En fait, il est assez bon pour ça, il s'intègre même bien dans le village. Et des fois, on retrouve quelques années plus tard des révoltes dans un village, on comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que la personne a construit avec les gens de la localité un rapport politique et les gens sont prêts à se mobiliser contre telle ou telle inégalité, injustice, grâce à ce travail au préalable. Donc, ce qui est très compliqué, c'est ça, c'est que en fait, factuellement, ces gens qui sont hyper formés aussi, on savent plus sur toute une série de questions. Donc sur toute une série de questions, on ne peut pas dire qu'ils vont juste arriver et écouter ce que le peuple a à dire. Mais il y a toute une partie du mouvement populiste qui dit que c'est ce qu'ils doivent faire aussi. Prendre en considération une sorte d'équilibre entre quels sont les besoins du peuple. Alors par exemple, cette question de donner des médicaments au peuple, pour eux, c'est un besoin. C'est-à-dire, pour les populistes russes, c'est un besoin. Le peuple a besoin d'être soigné, a besoin d'être en meilleure santé. Et donc, c'est notre rôle, vu qu'on est en partie formé à la médecine moderne, de pouvoir leur donner ce genre de compétences et de compétences, parce qu'ils ne peuvent pas forcément les partager, mais disons, commencer en tout cas à donner des médicaments, à dire, OK, là, il faudrait plutôt vous soigner comme ça. L'hygiène, juste des questions d'hygiène, 19e siècle, c'est quand même un siècle qu'on essaie de populariser des questions d'hygiène qui sont très utiles et très vite applicables pour n'importe qui. Donc ouais, je pense que c'est un point important. Et il y a des cas de mecs qui, en fait, on en râle le cul, quoi. Au bout d'un moment, ils sont là, mais non, mais en fait, c'est tous des débiles. Enfin, il y a des populistes qui finissent en disant ça, quoi. On n'a aucun espoir, le peuple ne va jamais rien faire. Il faut qu'on soit une petite élite avant-gardiste, qu'on fasse une révolution politique par le haut, parce que sinon, on va attendre des années et des années. Et la position plutôt marxiste qui va consister à quand même essayer de garder un pied dans les campagnes, mais qui va surtout être dans les milieux industriels et dans les usines. Voilà, les populistes, la tradition populiste qui a un peu évolué, elle a toujours resté attachée à cette idée de quand même avoir un rapport politique à la campagne. Ce qui est intéressant dans ma thèse, ce que j'essaie de montrer, c'est que si on part de l'idée que le terme populisme peut s'appliquer du coup à ça, moi, comme tu vois, je l'utilise pour parler des populistes russes, parce que je considère qu'on peut utiliser le terme populisme, parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce mouvement-là, comparé au mouvement, au socialisme européen, au socialisme au pluriel européen. Et par contre, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de repérer dans les socialismes européens s'il y a ce même type d'approche parfois, ce questionnement sur comment est-ce qu'on convainc les gens des campagnes. Et là, il y a un événement qui est hyper marquant, c'est la Commune de Paris, 1871, où le problème principal, c'est qu'il n'y aura pas eu de soutien de la province. Il n'y aura pas eu de soutien des campagnes. Il y aura eu pas que un soulèvement à Paris, d'ailleurs. Le mouvement communaliste en France, c'est aussi des communes à Lyon, à Marseille, à Narbonne. Enfin, ça, c'est plus complexe que ce qu'on en fait souvent dans la mémoire militante. Mais leur gros problème, ça a été de pouvoir sentir que la légitimité de cette révolution communaliste soit aussi acceptée dans les campagnes. Et ça n'a pas été, en tout cas, le cas pour les militants à l'époque, ils n'en avaient pas l'impression. Après, voilà.
Alors, justement, tu as parlé de la Commune. Ouais. J'allais te demander, est-ce qu'on peut parler d'autres mouvements populistes en Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle? Donc, on a parlé un peu de la Commune, mais dans le reste de l'Europe, est-ce que c'est vraiment quelque chose de purement russe, le mot qu'on peut... Donc, je ne suis pas en train de dire que les mouvements populaires, ce genre de choses, sont purement russes, mais plutôt le terme populisme, comme tu l'as défini, est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres mouvements en Europe? On a le plein temps des peuples, on a plein de mouvements révolutionnaires qui se passent partout en Europe à cette époque-là. Est-ce que c'est un phénomène que tu décrirais, à part la Commune,
ouais,
comme purement russe, alors, comme purement socialiste révolutionnaire?
Alors effectivement, ce serait le danger, c'est-à-dire de l'utiliser que sur le cas russe, et dire que du coup c'est une exception. Voilà. Et moi, c'est plutôt, j'essaie d'en repérer les traits principaux. Pour moi, ces traits qui sont importants sont cette composante agraire. Pour moi, c'est un élément fondamental dans ma compréhension du populisme russe. Et donc, ça devient une seconde question de recherche qui est en fait tout un programme. C'est-à-dire, jusqu'à quand on peut remonter. Et il ne faut pas faire la même chose qu'on fait aujourd'hui avec le populisme vis-à-vis d'anciennes étiquettes qui sont le fascisme, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'ultra-gauche, etc., qui permettent de t'effacer ça. Il ne faut pas faire la même chose non plus avec le 19e et de pouvoir l'utiliser sur des mouvements qu'on pourrait juste appeler des révolutions nationales, mouvements révolutionnaires. Donc il ne faudrait pas effacer non plus des étiquettes qui sont peut-être plus justes, qui sont des fois générales, mais qu'est-ce qu'on gagnerait à ajouter une définition avec l'idée populiste, que c'est un mouvement populiste. Et c'est ça qui peut être très compliqué, je dirais. Et moi, j'essaie de faire ça un peu juste sur le cas français, donc, et avec la thèse qu'effectivement, une partie de ceux qui vont sortir de la Commune de Paris vont entrer dans quelque chose de type populiste, parce qu'ils vont lire ce qui se passe en Russie, ils vont comprendre ce qui se passe en Russie, ils vont discuter avec des Russes proscrits qui vont rencontrer dans leur propre... Enfin, eux seront des communards proscrits aussi, ils se rencontreront, ils vont échanger, et ils vont discuter de cette question de qu'est-ce qu'on fait des campagnes, les gars. En France, on a toute une thématique en sciences politiques et en histoire sur ce qu'on appelle le bonapartisme rural. Donc, c'est cette idée que pendant le Second Empire, donc juste avant la Commune de Paris, Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, a une vraie politique d'aller vers le peuple aussi. Mais dans le même, tu vois, on parle souvent du mouvement populiste russe comme disant c'est le mouvement qui va vers le peuple.
Il y a aussi le boulangisme, non?
Il y a le boulangisme. Grosse question encore. Et ça.
Ah, j'ai fait mal à quelqu'un.
Ouais.
Là.
Non, mais c'est une grosse question parce que par exemple, il y a une somme qui vient de sortir là-dessus sur. Son nom m'échappe maintenant. Un historien qui écrit un bouquin de 700 pages, mais où il parle des origines du boulangisme et il parle de populisme dans son titre. Et lui n'est pas convaincu par l'étiquette, parce que, alors encore là, le boulangisme, on est dans quelque chose... Très souvent, dans la plupart des ce qu'on font les politistes aujourd'hui du populisme, ils commencent par dire, au 19e siècle, il y a trois mouvements populistes, c'est le populisme russe, le populisme américain, le populisme français, c'est le boulangisme. Basta. Pourtant, c'est des mouvements, déjà les comparer en disant qu'on peut utiliser un terme pour parler des trois, c'est déjà compliqué. Déjà, entre le populisme russe et américain, il y a des différences. Le populisme russe est révolutionnaire, le populisme américain est réformiste. Mais réformiste dans un sens qui est quand même très radical. Il propose des réformes, chose importante, hein. Il propose par exemple l'introduction des référendums dans les États. Et c'est inspiré de la Suisse, littéralement. C'est-à-dire que les populistes américains, il y en a certains qui sont venus, qui ont voyagé en Suisse et qui réintroduisent cette idée-là dans les campagnes populistes du People's Party américain. Donc il y a des choses voilà, qui sont... On va dire, pour moi, le populisme américain est ce qu'on peut appeler un populisme démocratique. Le populisme russe est un populisme révolutionnaire. Plutôt, qui veut créer une démocratie dans un État totalitaire. Le régime tsariste n'est pas un totalitarisme du 20e, hein, on n'a pas les mêmes moyens, mais quand même extrêmement coercitif. Et donc, il y a une dimension démocratique dans le populisme russe, mais il y a surtout une dimension révolutionnaire dans l'implication. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose de différent pour les gens qui s'impliquent dedans. Les risques ne sont pas les mêmes. S'impliquer dans le People's Party... Tu risques de ne pas être élu ou tu risques de ne pas être, voilà, de pas être d'être viré de ton boulot, mais tu risques pas l'exécution, la prison, la pendaison, les viols, la torture. Enfin, voilà, les populistes russes, c'est ça. C'est-à-dire la plupart des populistes russes sont juste morts à 25 ans, 30 ans, enfin, dans les prisons, en Sibérie. Enfin, c'est pas le même type d'implication.
J'ai une dernière question.
Ouais.
Sur le 19e, après, on va commencer gentiment à se déplacer plutôt plus en avant dans le temps.
Ah ouais, ouais.
Tu as dit donc justement qu'il y a une grande composante agraire dans ta thèse, dans ce que tu étudies. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que ce populisme russe est particulier à cause des conditions en fait matérielles de l'Empire russe, qui est un empire qui est principalement agraire, extrêmement peu industrialisé, contrairement à l'Europe de l'Ouest qui, au contraire, est plus industrialisée. Enfin, je dis ça, si je m'en souviens bien, à la fin du 19e, il y a quand même encore la majorité de la population française qui est dans la campagne.
Oui.
C'est le cas ?
C'est le cas, ouais.
Okay. Mais en Angleterre, c'est déjà...
C'est déjà inversé, ouais.
C'est déjà inversé, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a vraiment ce côté d'une, je sais pas comment dire, une société qui est vraiment agricole qui fait qu'il y a un populisme ? En fait, il y a un système politique très différent qui se développe. Parce qu'en France, la politique, c'est Paris. On dit ça souvent. Si on fait la révolution à Paris, on fait la révolution en France. J'imagine que dans bien d'autres pays en Europe, ça va se passer aussi comme ça. Alors que peut-être en Russie, il y a un système qui est quand même assez différent.
Et ça joue beaucoup dedans. Hein. C'est-à-dire que des grosses questions, des gros débats du populisme, avant même le mouvement populiste en tant que tel, mais des débats des intellectuels dont se sont inspirés les populistes, c'était sur la transition au capitalisme en Russie. Et en fait, certains populistes disent, ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas besoin de passer par la phase du capitalisme, parce qu'on a déjà une partie du peuple qui a des manières de gérer... sa production dans un milieu communal, et donc on va essayer de garder ça, on ne veut pas rentrer dans le système de propriété privée qui est propre au capitalisme, et donc on peut sauter cette étape-là si on veut. Et ça va être un gros enjeu du mouvement populiste russe, et voilà, ça va être un peu, comment dire, critiqué aussi.
Je te demandais en gros si la composante agraire de l'Empire russe, en fait, la situation... un peu la, économique, ouais, la répartition de la force de travail.
Veux, c'est pour ça que, par exemple, ben, comme tu disais, en France, tu as les années 60, tu as aussi dans les années 60, 70, 80, fin du 19e, tu as aussi encore beaucoup de paysans et qui pèsent beaucoup encore. Hein. C'est-à-dire que quand, par exemple, la commune va être... d'abord, quand tu as le début de la Troisième République, la critique que va faire Paris à la nouvelle Assemblée nationale, ça va être que c'est des conservateurs élus par des ruraux. Donc il y a la question de la majorité de la population française qui en fait a encore un pouvoir hyper important sur la structure du pouvoir français. Et donc, si tu veux, ça c'est un premier élément. C'est-à-dire oui, le populisme en fait est peut-être plus naturel dans un milieu où il y a encore beaucoup de paysans. En même temps, et moi c'est peut-être aussi ma thèse, c'est ce que j'ai envie de montrer dans une troisième partie un peu plus contemporaine et théorie politique, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui d'être populiste dans ce sens-là? Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu peine à voir, c'est-à-dire de voir une bonne partie de la gauche et de la gauche radicale aujourd'hui avoir un vrai problème à communiquer avec le monde rural. D'ailleurs, vraiment, on est sur un gros problème de communication. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille, m'intéresse aussi. De voir quels sont les mouvements potentiels aujourd'hui de gauche qui ont un discours agraire et qui ont une compréhension du milieu agraire. Et ça vient aussi de ma famille, tu vois, j'ai un grand-père agriculteur qui s'écharpait tout le temps parce qu'il était toute sa vie vaudois, donc il était radical, mais parti radical. Quand le parti radical a fusionné avec le parti libéral, pour lui c'était crève-cœur parce que les libéraux, c'est eux qui tuaient l'agriculture, tu vois. Donc vraiment des trucs familiaux qui m'ont fait m'intéresser à ça. Puis moi qui étais plutôt de gauche, je me disais, mais c'est vrai que quand je vais dans ces milieux de gauche, c'est urbain, c'est souvent... En plus, quand tu vas aussi dans le milieu de l'extrême gauche, c'est plutôt aussi des gens qui ont des niveaux universitaires. Et ça pose la question assez vite de quel est notre rapport à une partie du peuple, même si elle est minoritaire. Et c'est ça que je trouve important, c'est que même si elle est minoritaire, même si on est dans un État où on est quoi, quelques pourcents, même pas 10 de personnes qui sont dans l'agriculture, je pense 3-4%, même si elle est minoritaire, quel est notre rapport à ces gens-là? Parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'est même plus forcément agraire, mais qui, eux, considèrent quand même qu'il faut les prendre en compte. Et je pense que c'est une des choses qu'a pu bien faire l'UDC, tu vois, de prétendre revendiquer la défense. Tu vois, mon grand-père me disait, mais ils ne défendent pas du tout nos droits. Enfin, tu vois, mon grand-père, c'est un truc qui l'énervait que l'UDC prétende ça, en voyant que c'était un côté électoraliste. Et donc, le populisme, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit s'adresser au Parti Socialiste, si je veux être précis. Ça veut dire que c'est plutôt, si on a des mouvements populaires, des mouvements sociaux qui se créent en Suisse ou qui s'alimentent en Suisse, est-ce qu'ils ne doivent pas s'abreuver un peu à cette éthique et à cette morale des populistes russes du 19e siècle? C'est en gros ça un peu l'objet contemporain de ma thèse, si on veut.
Bah alors, c'est parfait qu'on parle d'objet contemporain de ta thèse, car maintenant on va commencer à discuter du populisme aujourd'hui. Il y a en gros, à travers le 20e siècle, il y a eu un espèce de glissement péjoratif, parce que le populisme dont tu parles n'a pas réellement de quelconque aspect péjoratif, à part si évidemment on trouve que c'est mauvais. Mais à ce moment-là, tout terme qu'on n'aime pas a un aspect péjoratif. Donc, Pierre va discuter un peu aussi avec Pierre sur justement ce glissement, sur les définitions. Donc j'ai trouvé un article de la RTS qui définit, c'est l'émission Voix du Peuple, qu'on salue, qui sont les quelques principes du populisme. Donc Pierre, je te laisse.
Oui, alors on peut distinguer, on dira un populisme protestataire et un populisme identitaire. Je ne sais pas si tu es... un peu au fait avec ces deux courants-là. Ouais. De quoi ça correspond? À voir, il y en a un qui est plutôt relié à la gauche, en tout cas au spectre politique de la gauche, et un autre peut-être plutôt sur la droite, voire l'extrême droite et un certain relent xénophobe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces deux mouvances populistes, on dira, qui, je pense, continuent à structurer aujourd'hui encore le débat politique et nos spectres analytiques par rapport à ça?
Ouais, alors ça correspond à l'autre clivage qu'on entend souvent aussi avec le terme populisme, le populisme de gauche, populisme de droite, effectivement, et puis le populisme identitaire s'applique effectivement à...
Je me permets d'interrompre, ouais. On a une question d'un auditeur. D'une auditrice qui me demande, est-ce que le populisme est de droite et de gauche? Donc on va aller le forcer dans la réponse comme ça.
Ouais, c'est parfait.
Dis-nous
c'est
la réponse parfait. Finale.
Et ben il y en a. Enfin, si tu veux, la mienne, elle est que le populisme est radicalement de gauche et qu'aujourd'hui, si on doit identifier des mouvements populistes, on parlerait plutôt des gilets jaunes et on mettrait pas Mélenchon dans le tas, par exemple. C'est-à-dire Mélenchon, en fait de la politique comme on a toujours fait de la politique. Hein, c'est après des mouvements, on essaye de des fois on verticalise parce qu'on a un certain charisme et puis Puis voilà, il y a plein de mouvements comme ça. Et Macron, à ce regard-là, il est populiste aussi. Hein. Et quand il a été élu, il a créé son mouvement de A à Z, il s'est mis en figure de proue, les médias l'ont encensé, il parlait du peuple français. Tu vois, donc il pourrait aussi y entrer. Il y a des gens qui ont fait d'ailleurs ce petit truc un peu, comment dire, un peu taquin, d'aller prendre les définitions de certains politistes et de voir si on pouvait y mettre Macron. Puis en fait, ça marche. Parce qu'ils ont des catégories tellement générales pour dire, OK, qu'est-ce qui est du populisme,
que,
voilà.
Donc, est-ce que ce serait un peu une idée d'horoscope?
Ouais, il y a un peu ce côté, ouais. Tu coches des cases, puis t'es un peu, bon, du coup, Macron, populiste.
Est-ce qu'il fait des discours politiques? Oui, donc c'est un populiste.
Il y a un côté un peu étonnant, mais qui peut s'expliquer. Enfin, ça prendrait trop de temps. Mais non, sur droite et gauche, alors par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est mon avis personnel. Après, il y a toute une série d'auteurs et qui ont un avis qui est tout à fait légitime, qui est qu'il faut pouvoir parler de populisme parce que ça ajoute quelque chose d'analytique. Dans le populisme de droite, ce que ça ajoute de pouvoir parler de populisme, c'est qu'on considère qu'une partie de l'extrême droite, pendant une bonne période, avait moins d'impact. Par exemple, sur l'UDC, ça, c'est un gros argument de dire que c'est le parti majoritaire en Suisse. On n'est pas sur un petit parti d'extrême droite qui est, dont on, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai... et dans le discours politique de l'UDC, il y a eu un vrai shift où, à un moment donné, on, à la place de juste parler pour un certain type de personnes, on a commencé à parler pour le peuple et avoir ça dans le discours. Alors, des fois, donc, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut avoir terminologiquement quelque chose en plus pour expliquer cette évolution. Et donc, des fois, le populisme se légitime. Dans le cas de la droite par cet argument-là, dans le cas de la gauche, ça se légitime par un autre argument qui est de dire que pendant très longtemps, les partis de gauche étaient des partis ouvriéristes. Et quand on a commencé à passer dans un autre registre qui était de « on doit viser plus loin que la classe ouvrière », on doit commencer à agréger des revendications sociales très différentes, écologistes, féministes, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où on construit un peuple à travers... Enfin, on utilise le mot peuple pour parler de toutes ces revendications différentes, et c'est pour ça qu'on en parle pour Mélenchon. C'est-à-dire Mélenchon a une stratégie que lui-même considère comme du populisme, qui a été inventée, théorisée par des auteurs post-marxistes qui sont Laclau et Chantal Amouffe, et qui, eux, ont cette idée-là. Le populisme est un nouveau rapport de la gauche aux politiques, et qui a une constitution du peuple par la mise en équivalence de demandes populaires qui viennent de différents secteurs de la population, et dont les ouvriers, mais voilà.
Ah, non, continue seulement.
C'était bon.
Ouais. Ok, ça marche. Alors, à ce moment-là, je vais laisser encore une fois Pierre pour discuter cette fois-ci de la raison pour laquelle on s'est tous rejoints ce soir. C'est Histoire et Cité 2023 à Genève, à Lausanne et à Neuchâtel cette année.
Oui, aussi, parce que le festival continue à s'étendre et à déployer ses tentacules depuis le bout du lac.
Bientôt Fribourg.
Peut-être bientôt Fribourg, ouais, ne sait-on jamais. Moi je vais un petit peu plus parler avec toi de ta raison, de ta présence, on dira, au Festival Histoire et Cité. Donc pour rappel, tu animeras une conférence qui s'appelle « Du pain ou la mort, les anarchistes à la conquête du pain », le samedi 1er avril entre 17h et 17h45 au Palais de Rumine à la salle Tissot. Et du coup, sans pour autant spoiler à nos auditeurs et nos auditrices toute la substantielle moelle de ta conférence. On va peut-être un petit peu évoquer Louise Michel, figure de proue de l'anarchisme du 19e siècle. Et moi-même, qui suis, un connaisseur assez médiocre de ces mouvements-là, de l'anarchisme. Voilà, j'ai Proudhon en tête. Je sais qu'au bout d'un moment, les anarchistes, ils étaient plus contents avec les socialistes et puis les communistes. Et puis, ils se sont séparés et ils sont allés à Saint-Imier pour faire leur propre international. Et voilà, moi, mes connaissances de l'anarchisme s'arrêtent à peu près à là. Et du coup, qui est Louise Michel?
Ouais.
En quelques mots.
Alors, Louise Michel, en quelques mots, alors, bon, c'est déjà une figure de proue dans la mémoire collective anarchiste, c'est la figure féminine centrale en France, à mon avis. Il y a d'autres figures centrales non françaises, Emma Goldman par exemple. Et donc ça lui donne un statut assez particulier, une renommée assez particulière. Après, c'est donc une femme qui, une bonne partie de sa vie, a d'abord été enseignante et n'était pas forcément militante. Elle a commencé à militer dans les années 1860, milieu des années, début des années 1860. Mais elle considère avoir toujours eu une fibre radicale et populaire depuis son enfance. Genre, et là, j'avais une citation qui est très révélatrice et qui est populiste dans un certain sens, c'est l'objet de ma thèse, tu vois. Mais qui dit à 6 ou 7 ans, je lisais donc un livre de Lamennais, donc un socialiste chrétien français, qui s'appelle, le livre s'appelle Les Paroles d'un croyant. Et elle dit qu'elle lisait avec sa sœur, non, avec des amis, et que le livre fut détrempé de nos larmes. Et elle dit, à dater de ce jour, j'appartins à la foule. À dater de ce jour, je montais d'étape en étape à travers toutes les transformations de la pensée, depuis la menace jusqu'à l'anarchie. Donc depuis ces 6 ou 7 ans, donc il y avait déjà, bon, c'est assez une reconstruction ex post, mais bon, elle a des souvenirs qui l'ont marqué de très tôt dans sa vie. Et donc après, elle devient connue parce que c'est une des femmes les plus actives pendant la Commune de Paris. Donc elle s'occupe de toute une série de choses dans la commune, elle prend les armes aussi. Elle va ensuite être bannie en Nouvelle-Calédonie pendant pas tout à fait 10 ans, je crois. Ça va être une des seules personnes... Alors ça, c'est encore des trucs un peu historiographiquement, il y a des débats un peu sur le nombre de communards qui, en Nouvelle-Calédonie, ont soutenu ou pas la révolte kanak contre les autorités françaises. Bon, Louise Michel était une des principales défenseuses de la révolte kanak. Déjà perspective intersectionnelle avant l'heure, donc ça en fait une figure très intéressante à étudier, c'est-à-dire comprendre comment quelqu'un en arrive à une telle radicalité, un tel humanisme envers tout le monde, malgré les différences. Beaucoup de communards qui avaient revendiqué la liberté, l'égalité, les droits pour tous pendant la commune, quand ils voyaient la révolte kanak, ils disaient « mais c'est qui ces primitifs hein, ?» Et ils ont soutenu, ensuite ils soutenaient le régime français, ils ont même pu être embrigadés dans des milices françaises pour mater la révolte kanak. La position de Louise Michel, pour ça, une cohérence dans sa propension à promouvoir la liberté partout et tout le temps, qui est proprement rare. C'est ce qui fait une figure intéressante. Et là, moi, je vous parlais d'un autre épisode qui est le braquage d'une boulangerie en 1883, où justement, ça connectait ça à la question du pain et de l'alimentation. Quand j'avais vu ce projet, ce titre du festival Historicité, instinctivement, je n'ai pas pensé à connecter à ce que je faisais. Puis d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on n'arrête pas de voir parler de pain. Kropotkin qui a écrit La conquête du pain, par exemple, en 1892. Et puis Louise Michel qui braque une boulangerie. Et on revient toujours sur cette question de la subsistance, en fait, dans le discours révolutionnaire et anarchiste. Et à cette époque-là, c'est ce que tu l'as bien dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout au long des années 70, une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anarchisme, en fait, eux se disent anarcho-communistes ou des fois se disent communistes anti-autoritaires. Donc on n'est pas encore sur la division qu'on va avoir de manière beaucoup plus nette à partir des années 1880-1890. On est encore sur quelque chose de... On est encore communiste, on se considère communiste parce que c'est l'idéal final. Et après, la question de... On ajoute encore une étiquette, c'est les moyens. Alors les autoritaires, c'est les marxistes parce que... Ils veulent un parti structuré, ils veulent une discipline, et puis nous, on n'est pas dans ce délire-là, donc nous, on fait quelque chose de plus horizontal. Et donc Louise Michel, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle connaissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants, de personnes importantes, très proches de Hugo, par exemple, très proches de Victor Hugo. Elle lui écrit des poèmes aussi. Là, il y a aussi des parties là, où elle raconte comment elle s'est radicalisée, et je ne sais pas si je la retrouve, là, j'ai mon bouquin sous la main, mais il y a masse de choses. Ah oui, elle écrit à Hugo... et on voit l'évolution en fait de sa pensée à travers les poèmes qu'elle lui transmet. Et donc là, c'est un poème en 1861 où encore elle est tranquille quoi. Donc c'est moi, je suis la blanche colombe du noir arceau qui pour l'arche à travers la tombe cherche un rameau. Voilà, c'est un truc. On est dans la poésie, on est dans la paix universelle. Enfin, le rameau, la blanche colombe, voilà. Puis 5 ans plus tard, là, elle dit ce que je lui envoyais maintenant sentait la poudre. Donc 1865. Napoléon III devient pas très content avec le mouvement ouvrier, il laisse quelques poches s'ouvrir, mais tout ce qui s'ouvre lui semble déjà trop à chaque fois parce qu'il a l'impression que ça peut vite exploser. En même temps, Napoléon III est quelqu'un qui a pu avoir des opinions socialistes très, très longtemps en avant, donc il est un peu dans un entre-deux. Il aime bien les bons ouvriers qui reconnaissent le pouvoir, mais il aime pas ces espèces de perturbateurs, plutôt des journalistes ou certains ouvriers un peu exaltés, mais c'est pas la majorité des ouvriers qui nous emmerdent dans les journaux et dans les manifs que pourtant j'accepte d'autoriser grassement. Et donc là, Louise Michel, donc en 65, elle envoie ça dans la boîte aux lettres du pouvoir pour voir s'il recevra sa, son poème. Et là, c'est « Entendez-vous tenez les reins, arrière celui qui balance, le lâche trahira demain, sur les monts et sur la falaise, allons semant la liberté. » Donc, semant la liberté, je sais, encore une métaphore sur le fait de semer des grains. Bref, chez Louise Michel, il y en a partout, des métaphores sur les moissons sanglantes, c'est-à-dire les révolutions écrasées dans le sang, les moissons sanglantes qui nourrissent les lendemains chantants, en gros, parce que de la mémoire des révolutions, on peut faire quelque chose. Et voilà, allons semant la liberté, souffle par l'orage emporté, passons, vivante Marseillaise, passons, passons les mers, passons les noirs vallons, passons, passons, que les blés mûrs tombent dans les sillons. Et voilà, c'est tout le temps un peu ça, Louise Michel, c'est un peu ce souffle. Et donc c'est pour ça qu'elle mérite d'être lue aussi, même dans une optique purement littéraire, hein. C'est-à-dire que c'est quand même une plume. C'est aussi ce que qui est important pour moi dans cette conférence à Historicité, ça va être de présenter alors Louise Michel, mais deux, trois autres personnes, qui sont à mon avis des caractères et des plumes qui sont des exemples en fait d'intégrité morale. Et c'est ça aussi que moi que j'ai cherché tout au long de mes études, mais surtout dans les dernières années de mes études, dans mon mémoire de master et dans ma thèse, c'est des fois des figures où tu te dis putain, j'ai rien à leur approcher quoi. Enfin, tu vois, tu te dis ah c'est fou, il y a un truc, il y a une puissance, il y a un investissement qui est impressionnant.
Voilà. Mais est-ce que ça vient d'une mise en récit de soi-même?
Oui, alors c'est ça.
C'est que peut-être que les choses mauvaises ont été gommées, qu'elles n'ont pas été retenues.
Bien sûr.
Forme de glorification, comme
alors,
ça.
Alors après, Louise Michel, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a plutôt été l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a plutôt été sali, moqué, pathologisé. On a failli l'interner. Enfin, c'était... Et pendant très longtemps, une bonne partie, si on veut, l'historiographie conservatrice, l'historiographie libérale, la voit comme une folle. Souvent critique son physique. Alors il y a toute une série ensuite de je sors d'un très bon bouquin là-dessus qui est sur la célébrité et postérité de Louise Michel, et en plus elle est récupérée aussi même dans la gauche, c'est-à-dire il y a des combats de mémoire sur est-ce que Louise Michel en fait est plutôt c'est plutôt PCF friendly ou c'est plutôt anarchiste, tu vois, il y a tout un conflit là-dessus, mais en même temps avec la distance historique les sources qu'on a maintenant, les correspondances. En fait, on a aussi la chance, on l'a avec peu de monde, hein, mais avec Louise Michel, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de sa correspondance, où c'est quelque chose où elle se met pas en scène, vu qu'elle écrit à des amis, et on peut essayer de voir la cohérence de l'implication et de l'éthique dans un certain sens. Et c'est ça aussi avec quelqu'un dont je vais parler dans ma conférence, sur qui j'ai fait mon mémoire, donc Élisée Reclus, où c'est quelqu'un, on a toutes ses correspondances depuis les années 1850 à la fin de sa vie. Donc en fait, il est né en 1830, donc on a genre... il est mort en 1905, donc on a 50 ans presque de correspondance. Et donc tu peux vraiment voir comment il évolue. Et c'est des lettres qui sont des lettres intimes. Il écrit des lettres à sa conjointe, à son frère. Et donc tu peux essayer de saisir qu'est-ce qu'il travaille et comment est-ce qu'il évolue.
Comment est-ce qu'ils arrivent
là-dedans. Et c'est un avantage qui malheureusement ne se reproduit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde où on a autant de sources. Ce qui fait qu'on en a aussi autant, bah, c'est parce qu'ils étaient connus d'une certaine manière. Donc en fait, on a gardé, leurs descendants ont gardé leurs lettres en se disant il faut que ça soit partagé.
Une volonté de mémoire.
Volonté de mémoire, ouais.
Et de faire passer à la postérité. On va peut-être un petit peu resserrer, on dira, autour de ta conférence et surtout de la thématique générale du festival qui est du coup sur l'alimentation. Donc, quid de l'alimentation, ouais. Du pain en l'occurrence, mais avec l'anarchisme, avec ouais. Tes domaines d'études, est-ce que quand tu as vu la thématique du festival, tu t'es dit « Ah ouais, tout de suite, je vais parler de ça », est-ce que ça paraissait tout à fait naturel pour toi ou pas du tout ?
Non, j'ai vraiment mis un moment à me dire « Ok, il y a un truc à faire ». Vraiment au début, je disais « Non, mais nourrir le monde, ok, c'est plus l'histoire d'alimentation, machin, c'est pas du tout ce que je fais ». Je suis pas légitime. À l'époque, je venais de voir un mec qui s'appelle Maxime Guénon qui a fait un travail de master en allant en thèse sur l'histoire du pain et l'histoire technique du pain dans l'histoire matérielle et technique de l'alimentation. C'est hyper intéressant. Il travaille aussi sur le 19e siècle. Donc et je me disais, ça, il pourrait venir présenter son truc. Bon, il est en France aussi, mais il aurait pu venir présenter son truc. Puis donc, je me suis dit, mais attends, en fait, on peut bidouiller un truc quand même, tu vois. Et bien entendu, effectivement, je suis de ceux qui, dans ce festival-là, ne vont pas être le plus connectés directement à la question alimentaire, parce que les anarchistes en font quelque chose de très spécial. Pour eux, la conquête du pain, c'est toujours associé à la conquête des libertés. Enfin, c'est toujours quelque chose de... et ils utilisent ça parce que parler de pain dans les slogans, le slogan de Louise Michel, du pain ou la mort, par exemple, quand elle va braquer sa boulangerie, C'est toujours quelque chose qui s'adresse à une mentalité populaire, si on veut, à la conscience populaire qu'on a. On a un droit à l'alimentation. Kropotkin, par exemple, dans La conquête du pain, il parlera du droit à l'aisance contre le droit au travail. Enfin, c'est-à-dire que tu as toute une période où la plupart des socialistes disent on doit avoir un droit au travail. Kropotkin va encore plus loin. Il dit oui, il faut un droit au travail, peut-être, tout le monde doit pouvoir travailler, mais pour que tout le monde puisse travailler, il faut aussi qu'on ait un droit à l'aisance, il faut qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de vivre en tant qu'humain. On est vraiment dans un truc, au 19e siècle, ça, c'est pas très audible. On est plutôt dans non, bah, si tu veux vivre, tu bosses, quoi. Ce qui est logique dans un certain sens. Et même aujourd'hui, on peut voilà. Mais aujourd'hui, on est arrêté dans un système, par exemple, d'aide sociale, qui en partie, peut-être, comment dire, on peut tirer un fil du droit à l'aisance de Kropotkin au revenu d'insertion. Bon, je tire des fils beaucoup trop gros parce que c'est pas vrai. Voilà, si vous voulez donner le revenu d'insertion, on n'est pas non plus sur une aisance fondamentale, mais...
En tout cas, un minimum vital pour tenter de survivre. On va peut-être, si le temps nous le permet...
Allez, une petite dernière.
Alors, du coup, moi j'aimerais te poser une question qui est plus en lien avec notre domaine d'études à Stan et moi-même, donc l'histoire. Donc, tu es sociologue de formation. Qu'est-ce que ça te fait de travailler sur des sources? Qu'est-ce que ça te fait de travailler sur du matériel historique? Est-ce que tu parlais de légitimité avant? Est-ce que tu t'es dit, mais qui suis-je pour parler d'histoire alors que je n'ai pas fait d'études là-dedans? Quel est ton lien à la source historique?
Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que, bon, alors moi, de base, j'ai fait de la science politique, et la science politique est une discipline un peu bâtarde où on utilise, alors il y a plusieurs types de sciences politiques. Il y a la science politique qui s'intéresse à l'administration publique, ou à des choses un peu plus classiques, traditionnelles, aux comportements électoraux, mais il y a la sociologie politique, et là, sociologie politique, l'histoire est très importante, et aussi passe dans la sociologie. D'ailleurs, c'est ce que disaient même des pères fondateurs comme Durkheim, toute bonne sociologie est historique, dans le sens où il y a toujours des dimensions historiques. La grosse question, c'est, alors là, c'est le métier d'historien, aller dans les archives, et est-ce que les sociologues le font toujours ou pas, et comment ils le font? Et là, c'est effectivement une grosse question. Alors moi, j'ai eu la chance qu'en sciences politiques, on considère qu'on fait en partie de l'histoire, en partie de la sociologie, et donc j'avais fait déjà des archives en master. Donc j'avais déjà été dans les archives cantonales vaudoises, j'avais été aux archives de l'ONU, enfin, j'avais déjà tâté un peu des archives. C'est un peu ces questions d'étiquette. Et aujourd'hui, on demande beaucoup aux jeunes chercheurs d'être interdisciplinaires. Alors en fait, tu te retrouves avec un marqueur sociologie, mais concrètement, moi, dans mon laboratoire, c'est pour ça que je suis à Lausanne d'ailleurs, je me suis fait inviter comme chercheur au Centre Horace Pareto en études de la pensée politique, où je suis avec de la pensée économique, et donc je suis avec des historiens de la pensée, parce qu'en fait, dans mon laboratoire en France, je suis avec des sociologues et des philosophes. Et la plupart travaillent sur des terrains très contemporains. Donc en fait, moi, parler du 19e siècle avec des gens qui travaillent sur les champs de canne à sucre, y a un truc
compliqué.
Voilà, un peu compliqué. Donc effectivement, j'avais besoin d'avoir un espace de travail où j'avais des historiens qui travaillent sur le 19e siècle et qui ont un rapport aussi à l'histoire des idées, parce que moi, c'est quand même pas mal ça que je fais. Hein. Sciences politiques, c'est quand elle s'intéresse à l'histoire, c'est, on va dire, sous deux modalités. Il y a la modalité sociologie historique de l'État, qui est quand même quelque chose qui est un gros point de la science politique, et un autre qui peut être l'histoire des idées politiques. Et l'histoire des idées politiques, c'est vrai que ça m'a toujours un peu passionné, donc je m'y suis accroché, voilà.
Et je pense qu'on peut te comprendre avec Stan. On va peut-être juste terminer sur un dernier coup de projecteur sur le festival. Est-ce que toi, il y a des conférences qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a des intervenants que tu recommandes à nos auditeurs,
ouais,
à nos auditrices?
Ouais. Alors, il y en a un en particulier que j'espère pouvoir aller le voir. On verra où j'en suis dans la préparation de ma conférence. Mais je crois que c'est vendredi soir à Genève. Donc, c'est Alessandro Stanziani, qui est à mon avis un des plus grands historiens de l'économie actuellement, qui a des thèses toujours très provocantes et très déstabilisantes dans ses bouquins. Donc, j'invite à aller le voir et à le lire. Et justement, là, il va venir parler du blé. Donc, ça me touche directement dans un certain sens. Il passe deux fois. Il y a vendredi soir à Genève et je crois un autre soir, il doit être à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. L'autre que je peux recommander, c'est la conférence d'introduction à Lausanne. Donc, je crois que c'est le 30 mars, et donc là, il y aura mon co-directeur de thèse, donc mon co-directeur lausannois, Thomas Boucher, et trois autres intervenants qui vont parler. Thomas va parler des huîtres ouvrières, et je crois que ça va parler de steak, de ponche, et de encore un autre aliment. Donc là, on est vraiment dans voilà, donc quelque chose aussi de festif.
Je me trompe, mais c'est pas sur les Italiens, sur la nourriture italienne.
Le dernier peut-être. Je saurais pas te dire.
Peut-être je me trompe, c'est peut-être une autre conférence. Mais en tout cas.
Ah, alors si c'est, alors, je pense pas parce que là, c'est une conférence avec quatre aliments différents. Et t'as l'huître ouvrière.
Ok, ça marche. Alors peut-être je me trompe.
Et après le ponche et le steak et un quatrième truc. Mais ça a l'air vraiment super et je le recommande chaudement.
Alors, si vous venez vendredi soir à Genève pour voir cette fameuse conférence donc, d'Alessandro Stanziani, c'est ça ?
Stanziani, ouais.
Alors, si vous venez voir cette conférence, mais venez un peu plus tôt à 16h30 à Uni du Four, on sera avec Fréquence Banane en live dans le hall d'Uni du Four. Une super émission, donc où on aura comme intervenante, comme invitée, Madame Marie Bess, archéologue. Et je pense que là-dessus, on va conclure cette émission. Est-ce que Pierre, tu as encore quelque chose à dire ?
Je voulais déjà te remercier pour ce chouette moment et ce chouette moment d'échange avec toi et de rappeler ta conférence « Du pain ou la mort, les anarchistes à la conquête du pain » le samedi 1er avril à 17h, entre 17h et 17h45 à la Riponne à Lausanne au Palais de Rumine dans la salle Tissot.
Ouais,
et alors je tiens à remercier donc Étienne Führer, notre invité, Pierre et Jacopo qui ont les deux participé. Et c'est ainsi que se conclut cette émission. Je vous rappelle, la 8e édition du Festival Histoire et Cité aura lieu à Genève, à Lausanne et cette année en plus à Neuchâtel, du mardi 28 mars au dimanche 2 avril. Vous retrouverez chaque jour des tables rondes, des conférences, des projections, des visites et plein d'autres activités sur la thématique de l'alimentation. Je vous invite à venir nombreux, vous amuser et vous instruire avec nous.